Il est 8h10 à Port-au-Prince. C'est l'heure du rendez-vous du journal plutôt d'Haïti et des Amériques. C'est avec Céline Pellarin. Bonjour Céline.
Bonjour Edmond Sadaka. Bonjour à toutes et à tous. Alors que le nord-est des États-Unis est pris sous la neige et le blizzard, c'est pourtant une tempête politique dont il sera question pour commencer notre rendez-vous. Le feu, la fureur, le livre du journaliste américain Michael Wolff a déclenché la fureur du président américain qui est dépeint de manière très négative et le feu judiciaire de ses avocats qui ont demandé la suppression du livre. Peine perdue et même contre-productive puisque l'éditeur a décidé d'avancer la sortie du livre de 4 jours. Il est disponible dès ce vendredi. Nous ferons le point sur cette polémique avec Anne Corpé à Washington et avec Romain Lemaresquier, bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Dans votre revue de presse, vous nous parlerez plus spécifiquement de Steve Bannon qui pourrait subir durement les foudres politiques et économiques de ses confessions dans ce livre. Une presse américaine qui traite également, mais moins bruyamment, d'une enquête ouverte par le FBI sur la fondation Clinton. Et au Pérou, les médias rapportent la sortie d'un ex-dictateur. Alberto Fujimori a quitté l'hôpital où il était traité en homme libre alors que la grâce présidentielle dont il a bénéficié continue de diviser le pays. Enfin, un dossier sur le Red Dakar, la fameuse course automobile qui se déroule sur le continent américain. Elle partira demain du Pérou. Nous verrons avec Eric Sanson que les concurrents se préparent après leur arrivée par bateau avec leur bolide de compétition. Si vous êtes aux États-Unis, c'est à partir d'aujourd'hui que vous pouvez acheter en librairie Le Feu et la Fureur. Dans cet ouvrage, le journaliste Michael Wolff dresse le portrait peu flatteur de Donald Trump et évoque un fonctionnement chaotique à la Maison-Blanche. Un ouvrage qui a fait tellement de bruit avant même sa publication que l'éditeur a dû anticiper de 4 jours sa sortie. Anne Corpé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante à Washington. Alors l'éditeur du Feu et de la Fureur a en effet dû prendre cette mesure parce que Donald Trump a tenté d'empêcher l'apparition de l'ouvrage et pour qu'au final sa manœuvre ait plutôt provoqué l'effet inverse.
En effet, le livre ne devait sortir que mardi prochain. Il était annoncé depuis plusieurs semaines comme un ouvrage explosif et les bonnes feuilles parues dans la presse depuis mercredi l'ont prouvé. Michael Wolff a rassemblé quantité de déclarations embarrassantes, sinon très gênantes pour le président. Les avocats de Donald Trump ont en conséquence envoyé un courrier à l'éditeur et à l'auteur pour leur demander de suspendre la publication évoquant des mensonges et de la diffamation. Mais l'éditeur a répondu qu'il estimait que ce livre présentait un intérêt pour le débat national et il a donc finalement avancé sa sortie.
Et les avocats de Donald Trump menacent aussi de porter plainte contre Steve Bannon suite aux propos qui lui sont attribués dans ce livre.
Oui, il l'accuse de diffamation et d'avoir enfreint l'accord de confidentialité qui le liait à la Maison-Blanche. L'ancien conseiller de Donald Trump affirme dans l'ouvrage que le fils du président s'est rendu coupable de trahison en organisant en juin 2016 une réunion avec des Russes à la Trump Tower. Pire, le sulfureux patron du site d'extrême droite Breitbart News ajoute « La chance que Don Jr. n'ait pas fait monter ses demeurés jusqu'au bureau de son père est égale à zéro. » Autrement dit, Steve Bannon soupçonne Donald Trump d'avoir au moins été au courant de cette réunion, ce qu'il a toujours nié, voire d'avoir lui-même rencontré les Russes, ce qui, si cela était confirmé, serait très embarrassant pour le président.
Et le livre n'est par ailleurs pas tendre avec Donald Trump et ça c'est un euphémisme.
Oui, le président y est décrit par ses proches comme un crétin, incapable de se concentrer plus de quelques minutes sur un sujet, comme un ignorant qui accorde une confiance démesurée à son instinct. L'ancienne chef de cabinet de la Maison-Blanche y déclare à propos de son travail « C'est comme essayer de comprendre ce que veut un enfant ».
Pas tendre, effectivement. Et ce scandale littéraire, Anne, eh bien, a relancé le débat sur la capacité du président à assumer sa fonction.
Oui, dans une interview parue ce jeudi, l'auteur du livre concluait « implacable ». Tous les conseillers de Trump ont compris qu'il était incapable de faire le job. On a d'ailleurs appris que début décembre, une douzaine d'élus, dont un républicain, ont suivi un séminaire de 2 jours organisé par un psychiatre autour de la santé mentale de Donald Trump. Et ce jeudi, un représentant démocrate, Jamie Raskin, a annoncé avoir rassemblé les signatures de 56 élus pour la création d'un comité chargé d'évaluer les capacités de Donald Trump. On l'écoute.
On a des choses sérieuses à faire et au lieu de cela, on est pris chaque jour dans ce qui ressemble à un débat national sur la santé mentale du président. C'est une situation très dangereuse et très instable, comme beaucoup de sénateurs républicains l'ont eux-mêmes constaté. Il y a clairement beaucoup de choses préoccupantes. Il a un comportement de plus en plus délirant et une attitude de plus en plus erratique. Il est de plus en plus isolé. Nous avons besoin d'avoir à notre disposition tous les outils prévus par la Constitution pour faire face à cette période difficile de l'histoire américaine. américaine. La question est, quelle est notre responsabilité institutionnelle au Congrès? Nous avons l'article 25 de la Constitution que tout le monde devrait consulter au cas où le président devient incapable de mener les affaires.
Mais le fameux article 25 de la Constitution américaine qui prévoit le remplacement du président en cas d'incapacité n'a jamais été utilisé. Il est extrêmement difficile à mettre en œuvre.
Oui, pour y parvenir, il faut obtenir l'accord de la majorité du cabinet, du vice-président et ensuite celui des deux tiers du Sénat et de la Chambre. C'est plus compliqué encore donc que la procédure de destitution et ces deux hypothèses sont pour le moment à exclure. En attendant la suite du débat sur la santé mentale du président, Donald Trump, qui est présenté dans Feu et Fureur comme un homme qui ne lit jamais, même pas en diagonale, pourra se targuer d'avoir contribué à un énorme succès en librairie. L'ouvrage qui lui est consacré est déjà classé en tête des ventes sur Amazon.
Et cela s'appelle l'ironie du sort. Merci Anne Corpé pour ces précisions de Washington. Et ce livre, Romain Le Maresquier, eh bien fait la une de la presse américaine. Il y a une information supplémentaire avec l'apparition de ce livre. Les mécènes de Steve Bannon lui coupent les vivres.
Oui, et ces mécènes ne sont pas n'importe qui puisqu'il s'agit de la famille du milliardaire Robert Mercer, une famille qui a grandement contribué notamment au financement de la campagne de Donald Trump, précise le New York Times. Hier, sa fille, l'ultra conservatrice Rebecca Mercer, qui ne s'étale jamais dans les médias, a annoncé dans un communiqué adressé au Washington Post que ni elle ni sa famille ne soutenaient les actes et les récentes déclarations de Steve Bannon, affirmant ne pas avoir parlé depuis des mois avec l'ancien conseiller de Donald Trump. Rebecca Mercer a également précisé qu'elle n'avait pas financé les activités de Steve Bannon dernièrement, un soutien de poids au moins pour celui qui cherchait à faire la révolution au sein du Parti républicain.
Et une autre conséquence se profile pour Steve Bannon, il pourrait perdre son poste de président de Breitbart News, le média ultra-conservateur qu'il dirige.
Oui, c'est ce que précise le New York Times, puisque la famille Mercer est actionnaire de Breitbart News et Rebecca Mercer, dans son communiqué, a laissé entendre qu'elle pourrait revoir sa stratégie, prévient le New York Times, pour qui cette polémique pourrait bien mettre un terme à la carrière politique de Steve Bannon. Selon le quotidien, de nombreux autres soutiens de l'ultra-conservateur devraient suivre les pas de la famille Mercer, et il ne s'agit pas que de donateurs, mais également de membres du Parti républicain, et plus grave, de partisans de Steve Bannon, qui n'hésitent pas à critiquer sur le site de Breitbart News, les déclarations de leur ancien gourou politique.
On reste encore aux États-Unis, Romain Le Maresquier, avec une autre information qui est passée un peu inaperçue dans le contexte de cette polémique littéraire et politique. Il s'agit d'une enquête du département américain de la justice sur la fondation Clinton.
Oui, c'est le quotidien The Hill qui a sorti cette information. La fondation Clinton fait depuis un mois l'objet d'une enquête du département de la justice afin de vérifier si la famille Clinton n'a pas bénéficié de ce que l'on appelle du pay to play, ce qui signifie payer pour jouer, c'est-à-dire être payé en échange de faveurs, le plus souvent politiques, alors qu'Hillary Clinton était secrétaire d'État. Des rétributions qui seraient illégales, détaille le quotidien. Pour l'instant, seul un témoin a été interrogé, mais l'enquête pourrait s'accélérer, croit savoir le quotidien, qui se base sur les déclarations de membres du département de justice qui ont préféré rester anonymes.
Et on part au Venezuela, où les conséquences négatives s'accumulent suite à l'augmentation du salaire de base annoncée le 31 décembre par Nicolas Maduro.
Oui, si de nombreux experts estimaient suite à cette annonce que cette augmentation allait favoriser l'inflation et créer encore plus de problèmes dans le pays. Les dernières nouvelles provenant du Venezuela confirment leurs craintes. Selon El Nacional, de nombreuses écoles privées risquent de mettre la clé sous la porte. Ces écoles n'ont tout simplement pas les moyens de payer ces 40% d'augmentation annoncées du jour au lendemain. Le quotidien évoque également la fuite des professeurs, les enseignants pouvant prétendre à de meilleurs salaires à l'étranger. Et il n'y a pas que les écoles qui sont concernées, les universités également, puisqu'elles n'avaient pas envisagé cette augmentation dans leur budget. Pour le président vénézuélien Nicolas Maduro, cette mesure se voulait populaire. Finalement, c'est l'effet inverse qu'elle risque d'avoir, estime le quotidien.
Enfin, le Pérou et cette actualité qui risque de crisper à nouveau le pays puisqu'Alberto Fujimori, l'ancien président condamné et gracié, a été libéré la nuit dernière.
Oui, celui que de nombreux Péruviens qualifient de dictateur est rentré chez lui en chaise roulante, nous apprend ce matin Pérou 21, gracié par le président Pablo Kuczynski officiellement pour raisons humanitaires. Il a quitté la clinique où il était traité mais toujours sous surveillance. Hier soir, en compagnie de son fils Keijo, détaille la Repubblica. Alberto Fujimori a été condamné en 2009 à 25 ans de réclusion pour crime contre l'humanité. Sa libération soulève de nombreuses critiques, notamment de la part de Marisa Glave, élue au Congrès et membre du Parti Nuevo Pérou, pour qui cette sortie de la clinique où il était soigné prouve que l'ancien dictateur n'est pas un malade en phase terminale, raison pour laquelle il avait été gracié. Dans les pages de Pérou 21, Marisa Glave n'hésite pas à parler de farce et appelle les Péruviens à se mobiliser le 11 janvier à l'occasion d'une manifestation pour dénoncer justement cette grâce présidentielle.
Et on suivra ce rassemblement la semaine prochaine sur l'antenne de RFI et dans le journal d'Haïti et des Amériques. C'était la revue de presse signée Romain Le Maresquier. C'est une course automobile célèbre autant que controversée. Le Red Dakar, anciennement Paris-Dakar, 40e édition, partira demain, samedi 6 janvier de Lima. Et l'arrivée se fera en Argentine après avoir traversé la Bolivie. Les concurrents se préparent et notre correspondant au Pérou, Eric Sanson, était sur le port du Callao mardi pour assister à l'arrivée des véhicules et l'installation du fameux village Dakar.
Sur le port du Callao, l'arrivée des véhicules a donné lieu à un joyeux désordre. Des centaines de pilotes, mécaniciens et organisateurs se pressaient devant un conteneur pour retirer papiers et autorisations. Près des engins attirant tous les regards, un homme était particulièrement satisfait d'être à terre, Luc Pierlouette, de l'organisation du rallye.
Je suis venu au Pérou en cargo, avec le cargo qui accompagnait tous ces véhicules-là.
Et... Donc un long voyage ?
Oui, un mois, par le détroit de Magellan.
De vous assurer que...
Tout va bien, ouais, dans les ponts, on est en contact avec l'organisation, on leur signale le mauvais temps, la mauvaise mer.
Après un mois de bateau et une nourriture approximative, Luc Pierlouette est content d'être au Pérou et en général en Amérique latine, où le rallye attire un public chaque fois plus considérable.
Il y a énormément de monde, alors qu'en Afrique, il n'y avait pas de spectateurs. Ici, dans certaines arrivées, on a l'impression de se retrouver à l'arrivée de certaines étapes du Tour de France, tellement qu'il y a du monde, quoi.
Parmi les pilotes, personne n'est blasé, mais disons que certains ont le cuir plus dur que d'autres. Pilote de camion, Michel Boucou en est à son 29e Dakar. Il attend le sable des premières étapes péruviennes avec impatience.
Le parcours, il va être assez velu, disons, la première semaine, et surtout au Pérou, pour le sable, disons, tout ce qui est dune et tout. On en voulait, mais là, on va en avoir, je suppose. Et enfin, on a déjà fait le Pérou la dernière fois qu'il s'est fait ici. Et c'était assez compliqué. Il paraît que cette année, ils l'ont fait à peine un peu plus dur. Disons, pour que au moins les gens ils sont contents, qu'ils aient du sable et qu'ils s'amusent bien.
Venu d'Alsace, Bruno Scherer regarde sa moto dont la selle a été légèrement déchirée. Il en est à son premier Dakar. Il part dans l'inconnu et semble étrangement décontracté.
Premier Dakar, c'était un rêve d'enfant, et puis voilà, on s'est entraîné, on a trouvé le budget cette année, et c'était, je pense que c'était le moment. Avant les 48 ans, je pense qu'il fallait le faire. J'ai eu de la chance, j'ai fait une moto aux couleurs de mon département, qui est l'Alsace, et l'Alsacien étant très chauvin, ils m'ont aidé. Assez rapidement, en moins de 3 mois, on a bouclé le budget. Ouais.
Axel Dutry, lui, est venu de Calais avec son quad. C'est son deuxième Dakar. Et après sa 5e place de l'an dernier, il aimerait bien monter sur le podium d'un raid auquel il n'est pas si facile de participer.
Je me suis inscrit il y a 2 ans, j'avais été refusé par manque d'expérience en rallye raid, donc j'avais dû faire d'autres manches de championnat du monde pour me qualifier, entre guillemets. Donc chose que j'ai fait il y a 2 ans, et l'année dernière j'ai pu participer en premier Dakar, et j'avais dit je vais voir pour le faire une fois dans ma vie, parce que c'est un rêve, et puis de gosse, et puis je voulais le faire. Maintenant, pour ma deuxième participation, j'avais dit une année sur deux, mais en rentrant l'année dernière, j'ai attendu un mois ou deux, et j'ai dit bon allez, je repars.
Avant le grand départ, tous les participants ont une pensée pour les familles, pour qui la course n'est pas non plus facile.
C'est très inquiet. L'année dernière, on ne savait pas à quoi s'attendre, donc elle m'a laissé partir, je dirais, assez facilement, sans savoir. Et puis tous les jours, elle était inquiète. Et puis après, les médias s'y sont mis, parce que j'étais premier français, etc. Donc après, il y a eu tout un engouement autour de ça, et puis ça a beaucoup, beaucoup stressé jusqu'à l'arrivée. Et là, par contre, depuis un mois avant l'arrivée, c'est déjà très dur. Donc j'imagine même pas en ce moment. Ouais.
Pour résister à la fatigue des 15 jours de course et une seule journée de repos, chacun à sa manière, avec un mot-clé, le repos.
Bah, physiquement, je fais toutes les courses de sable en France pendant l'hiver, donc c'est pas trop le problème. C'est pas trop le pilotage non plus, c'est vraiment le problème d'être en forme physiquement, je dirais, de bien être reposé, parce qu'on sait que ça va être long tous les jours, on va pas beaucoup dormir, donc il faut arriver vraiment en pleine forme, c'est bien reposer les 15 derniers jours.
De la marche rapide tous les matins à 6h, 10 km de marche rapide, 3 heures de crossfit toutes les semaines, et une alimentation saine, et un peu moins d'alcool que d'habitude.
La première étape mènera les concurrents de Lima à Pisco pour le début d'une semaine exigeante de sable, l'ADN du Dakar.
Le reportage d'Éric Sanson, le Rallye Raid Dakar, 40e édition, départ demain 6 janvier de Lima. Moto, voiture ou camion pour une arrivée en Argentine, ce sera le samedi 20 janvier. Le journal de la première, c'est avec Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Céline.
Un drame évité de justesse était hier en plein centre de Pointe-à-Pitre.
Oui, un pan de mur qui s'est effondré sur la chaussée à l'angle des rues Schellcher et Delgrès. Fort heureusement, aucun blessé à déplorer, mais cet incident spectaculaire conforte la municipalité de Pointe-à-Pitre dans sa volonté de procéder à la démolition pure et simple de ces verrues laissées à l'abandon. Jackie Léogan est adjoint au maire chargé de la sécurité. Il est au micro de la première Guadeloupe.
Un arrêté de démolition a déjà été pris il y a déjà quelques jours. Donc il s'agit aujourd'hui d'accélérer la procédure afin de procéder à la démolition de cette bâtisse. Là, il s'agit pour nous de tout mettre en œuvre pour mettre en sécurité à la fois les automobilistes et les piétons. Nous allons neutraliser la circulation autour de ce bâtiment et ensuite lancer la procédure de démolition. Au jour d'aujourd'hui, un certain nombre de bâtiments sont squattés et deviennent insalubres faute de ne pas être occupé par les propriétaires. Donc nous, Ville de Pointe-à-Pitre, nous mettons tout en œuvre pour mettre en sécurité les habitants et les piétons. Ça fait déjà des mois que nous relançons les propriétaires. Malheureusement, rien n'est fait en ce sens-là. Donc c'est pour cela, effectivement, nous avons pris un arrêté d'insalubrité, ce qui nous ramène à la démolition automatiquement de ce bâtiment-là.
On reste en Guadeloupe avec l'association Envie Santé qui veut faire reculer l'État dans le dossier empoisonné du chlordécone. L'association veut contester en justice l'augmentation des LMR, limite maximale de résidus du pesticide dans l'alimentation. Pour cela, il faut de l'argent. L'association a donc lancé une souscription sur Internet. Franck Aristide.
0 microgramme de résidus de chlordécone dans notre alimentation. Chez nous, cet objectif est encore très loin d'être atteint. Pire encore, le seuil de tolérance est même 2 fois plus élevé que dans le reste de l'Union européenne. Pour Envie Santé, la faute, une nouvelle fois, au lobby bananier avec l'aval des autorités publiques. Car pour cette association, c'est bien pour écouler sur le marché européen des bananes contaminées et sur le marché local des fruits et légumes infectés et ainsi continuer à faire du profit que ce groupe a fait pression sur l'État et l'Europe pour obtenir ce droit de vendre des produits contenant du chlordécone. Purement et simplement un sacrifice de la santé des Antillais sur l'autel du profit pour Envie Santé, qui rappelle le record mondial détenu par les Antilles en matière de cancer de la prostate. Les pubertés précoces issues du dérèglement hormonal avec aujourd'hui des fillettes pubères et fécondes dès l'âge de 3 ans, des retards de développement cognitif et une baisse de QI chez les enfants vivant dans les zones les plus exposées. Alors l'unique solution à ses yeux est bel et bien la suppression totale des aliments chlordéconés grâce à une agriculture alternative, car au-delà, selon de nombreux scientifiques, même à très faible dose, le danger sur l'homme, c'est la répétition de l'ingestion d'aliments contaminés. Et aujourd'hui, les Antillais ne doivent pas être des rats de laboratoire au service des producteurs de pesticides.
Bon après-midi Céline, bon week-end à lundi.
Merci Benoît Ferrand et bonne journée à vous également. Il est 8h28 à Port-au-Prince et à Montréal. Le journal d'Haïti des Amériques s'est terminé pour aujourd'hui. C'était Jonathan Brady à la réalisation avec Benjamin Rey. On se retrouve lundi pour une nouvelle édition et d'ici là, il y a le site internet pour retrouver les informations développées dans cette édition. Il y a également la page Facebook. Passez une excellente journée à l'écoute de la Radio du Monde. On se quitte en chanson avec Bernard Lavillier en duo avec Jeanne Chéral pour chanter à l'espoir.
Le soleil se lève aussi, et plus forte est sa chaleur. Plus la vie croit en la vie, plus s'efface la douleur. Pour ces semaines très noires, pour ces belles assassinées, pour retrouver la mémoire, pour ne jamais oublier. Il faut te lever aussi, il faut chasser le malheur. Tu sais que parfois la vie a connu d'autres couleurs. Et si l'espoir revenait, tu me croiras jamais. Dans le secret, dans l'amour fou de toutes tes forces, va jusqu'au bout. Et si l'espoir revenait, sur mes doutes et ma colère, sur les nations déchaînées, sur ta beauté au réveil, sur mon calme retrouvé.
RFI La sélection du mois.
M6 Solar.
Je commande un sondage pour des vacances à Singapour. On vote à main levée. Il y a 5 filles contre et 5 gars pour.
Les oiseaux reviennent.
The Chanteuse.
Il faut essayer.